présent. Ce n'est que quand l'avion décolle que je commence à me détendre un peu. Je devine cependant que, une fois à Bangkok, je passerai mon temps à regarder par-dessus mon épaule. Je doute que l'impression de menace imminente me quitte un jour. Même savoir que Millie est en sécurité dans son école ne suffit pas à dissiper mes craintes que, par quelque miracle, Jack réussisse à nous atteindre. J'ai envisagé de l'emmener avec moi. J'ai failli dire à Janice que Jack lui avait concédé son billet afin qu'elle la conduise à l'aéroport. Mais il vaut mieux ne pas l'impliquer dans la suite des événements. Je vais avoir déjà assez de mal à rester calme. Devoir surveiller ma sœur en parallèle risque d'être trop difficile. Après ce que j'ai vécu ces dernières heures, le plus petit détail pourrait me faire perdre le contrôle que je m'efforce à tout prix de garder sur la situation. Je tiens, en me remémorant que, une fois en Thaïlande, dans le huis clos de ma chambre, j'aurai largement le temps de laisser tomber le masque. Le passage de la douane à Bangkok est un cauchemar. La peur que la main de Jack s'abatte soudain sur mon épaule est plus forte que jamais, alors qu'il n'a décemment pas pu arriver ici avant moi. Malgré tout, je me surprends à dévisager le chauffeur de taxi avant de monter dans sa voiture, histoire de m'assurer que ce n'est pas Jack qui est assis derrière le volant. À l'hôtel, je suis chaleureusement accueillie par Monsieur O, le directeur qui a rédigé la lettre sur mon comportement incohérent. Lorsqu'il exprime sa surprise de me voir seule, j'exprime la mienne qu'il n'ait pas reçu de mail de Monsieur Angel, le priant de veiller sur moi en attendant qu'il me rejoigne. Monsieur O assure qu'il sera ravi de s'acquitter de cette tâche et fait part de sa sympathie lorsque je lui explique que des obligations professionnelles retiendront mon époux chez nous jusqu'à mercredi. Je sens le directeur hésiter. Serait-il possible, m'interroge-t-il, que mon mari, Monsieur Jack Angel, soit le même que certains journaux anglais ont mentionné récemment en rapport avec l'affaire Anthony Thomasin? Je confesse, sous le couvert de la plus stricte confidentialité, que oui, et j'ajoute que nous espérons pouvoir compter sur sa discrétion pour que personne n'apprenne où nous résidons à Bangkok. Il avoue avoir appris hier sur la chaîne internationale que M. Thomasin avait été acquitté. Je confirme, ce sur quoi il suggère que M. Angel a dû être extrêmement déçu, surtout qu'il s'agit de la première affaire qu'il perd. Tandis qu'il m'enregistre, il me demande comment je vais. Délicate allusion à mon instabilité mentale et si le voyage a été bon. Quand je lui réponds que j'ai eu du mal à dormir, il décide que le moins qu'il puisse faire pour un aussi fidèle client que M. Angel est de nous surclasser dans l'une des suites de son hôtel. Je suis si soulagée de ne pas avoir à réintégrer la chambre où j'ai découvert que j'avais épousé un monstre que je me retiens à grand-peine d'embrasser M. O. Il insiste pour m'escorter jusqu'à mes nouvelles pénates, me traverse l'esprit qu'il pourrait s'interroger sur les raisons qui nous poussent à toujours prendre l'une des plus modestes chambres alors que Jack est un avocat si connu. Du coup, je prends soin de préciser que mon mari aime à préserver son anonymat quand nous sommes en vacances, plutôt qu'attirer l'attention sur lui en dépensant sans compter. Je ne le formule pas exactement dans ces termes, mais il saisit l'intention. Lorsqu'il est parti, j'allume la télévision et cherche la chaîne Sky News. Même en Asie, le verdict rendu au procès Thomasin fait la une. On montre l'acquitté s'adressant aux journalistes à la sortie du tribunal, et Jack apparaît en arrière-plan, assiégé par la presse. Incapable de supporter ce spectacle plus longtemps, je m'empresse d'éteindre le poste. Je rêve d'une douche, mais je dois d'abord passer deux coups de fil, l'un à Janice, le second à Jack, pour les informer que je suis arrivée sans encombre. Heureusement, ce sont deux numéros que je connais par cœur. Celui de Jack depuis l'époque où je l'ai rencontré, celui de Janice parce qu'il est le plus important qui soit à mes yeux. Ma montre indique qu'il est 15 h ici, ce qui signifie qu'il est 9 h en Angleterre. En tant que femme de Jack Angel, j'ai des priorités. C'est donc lui que je joins en premier. Je suis brutalement submergée par une vague d'affolement. Si ça se trouve, il a fort bien pu changer de numéro au cours de l'année précédente. Aussi, quand je tombe sur sa boîte vocale, je manque de défaillir de soulagement. Inspirant profondément pour me calmer, je laisse un bref message comme ceux qu'une tendre épouse pourrait laisser, comme celui que j'aurais pu laisser si mon rêve naïf s'était concrétisé. « Allô, chérie ? C'est moi. Tu m'as averti que tu risquais de ne pas décrocher, je sais, mais j'espérais que ce ne serait pas le cas. Comme tu peux le constater, tu me manques déjà. Peut-être dors-tu encore ? Quoi qu'il en soit, je suis arrivée à bon port, et, devine un peu, Monsieur O a été tellement embêté que je sois toute seule qu'il m'a attribué une meilleure chambre. N'empêche, je sais que je vais détester l'occuper seule. Je croise les doigts pour que les journalistes ne te harcèlent pas trop et que tu réussisses à expédier ta paperasse. Ne travaille pas trop, et si tu as une minute, rappelle-moi s'il te plaît. Je suis dans la 107. Sinon, c'est moi qui réessaierai de te contacter plus tard. Je t'aime. À plus. Je raccroche. Compose le numéro de Janice. À 7 heures, un samedi matin, elle et ma sœur ont sûrement terminé leur petit déjeuner et sont sur le trajet des écuries pour la leçon d'équitation de Millie. Janice ne répondant pas tout de suite, mon cœur se met à battre de terreur. Des fois que Jack soit finalement parvenu à s'en prendre à Millie. L'auxiliaire de vie finit cependant par décrocher, et pendant notre échange, je me souviens de la prévenir qu'Esther et ses enfants viendront demain. Elle me passe Millie et je me sens mieux, pour l'instant du moins, d'avoir la certitude qu'elle est en sécurité. Je me rends dans la salle de bain. La douche occupe un coin de la pièce, dissimulée derrière des vitres opaques. Résultat, l'utiliser est exclu, au cas où, en sortant, je découvrirais Jack m'attendant à l'extérieur de la cabine. J'inspecte la baignoire et les lieux. Si je laisse la porte ouverte, j'aurai le salon dans mon champ de vision, de même que l'entrée principale de la suite. Rassurée, je fais couler un bain, me déshabille et m'enfonce prudemment dans l'eau. À l'instant où elle enveloppe mes épaules, la tension qui me tient depuis que j'ai entendu Jack rentrer à 15 heures la veille me déserte, et j'éclate en gros sanglots rauques. Mes larmes coulent à un rythme alarmant. Lorsque je me ressaisis enfin, l'eau est si froide que je frissonne. M'extrayant de mon bain, je m'enroule dans un des peignoirs blancs de l'hôtel et regagne la chambre. Je meurs de faim. J'attrape le menu du room service. Si je veux continuer à faire comme si tout était normal, je vais être obligée de sortir à un moment ou à un autre. Mais là, tout de suite, je n'en suis pas capable. Je commande un club sandwich. Sauf que, quand on me le monte, j'ai trop peur pour ouvrir. Même avec la chaîne de sécurité, au cas où ce soit Jack qui se trouve de l'autre côté du battant. Je demande donc à ce qu'on dépose le plateau dans le couloir. Ça ne vaut pas mieux, puisque Jack pourrait parfaitement rôder dans les parages, guettant le bon moment pour me sauter dessus dès que j'entrebâillerai la porte. Lorsque je rassemble suffisamment de courage pour l'entrouvrir et tirer le plateau à l'intérieur, j'éprouve un immense sentiment de triomphe. Du coup, je regrette de ne pas avoir également commandé une bouteille de vin pour fêter ça, mais bon. J'aurai tout le temps de célébrer ma victoire plus tard, dans environ 5 jours, si mes calculs sont justes. Je n'ai aucun moyen de savoir s'ils le sont. Pas encore, du moins. Mon encas terminé, je déballe mes affaires, puis consulte ma montre. Il n'est que 17h30. Comme personne ne s'attendrait à ce que je descende dîner seule pour mon premier soir à l'hôtel, j'estime justifié de rester dans ma chambre pour le restant de la journée. Soudain éreinté, je m'allonge sur le lit, sans vraiment espérer réussir à m'assoupir cependant. C'est pourtant ce qui se passe. Et quand je rouvre les yeux et découvre que la pièce est plongée dans l'obscurité, je bondis sur mes pieds et le cœur battant court partout pour allumer les lumières. Je ne me rendormirai pas, par peur de trouver Jack debout près de moi au réveil. Je me résigne donc à passer une longue nuit d'insomnie, avec mes pensées pour toute compagnie. Au matin, je m'habille, attrape le téléphone et compose le numéro de Jack. « Bonjour, chérie. Je ne m'attendais pas vraiment à t'avoir, vu qu'il est 2 heures du matin en Angleterre et que tu dors sûrement, mais je me suis dit que tu serais content de m'entendre quand tu te lèveras. J'aurais voulu t'appeler hier avant de me coucher, mais je me suis allongée vers 18 heures et ne me suis réveillée qu'il y a une dizaine de minutes. Je devais être épuisée. Je vais descendre prendre mon petit déjeuner, mais je ne sais pas du tout à quoi je vais consacrer ma journée. Il se pourrait que j'aille me promener. » Même s'il est plus probable que je reste au bord de la piscine. Tu m'appelles quand tu émerges? Si je ne suis pas dans ma chambre, tu n'as qu'à laisser un message à la réception. J'ai l'impression d'être affreusement loin de toi, ce qui est le cas, bien sûr. Bref, je t'aime et tu me manques. N'oublie pas de me téléphoner. Je me rends à la salle à manger. Monsieur O est de service. Il s'enquiert de mon sommeil, et je réponds que j'ai passé une très bonne nuit. Il me suggère de m'installer sur la terrasse. Par conséquent, je traverse le hall, assailli par le souvenir de toutes les fois où Jack m'a escorté dans ses parages, sa paume fermement agrippée à mon bras pendant qu'il me susurrait des menaces. Dehors, je me sers de fruits et de crêpes avant de choisir une table dans un coin. Je me demande si quelqu'un au monde a été aussi abusé que je l'ai été par un homme. Je ne pourrai jamais raconter à quiconque ce que j'ai subi, ni expliquer quel monstre était mon mari. Pas si tout se déroule comme je le souhaite, s'entend. Et ça paraît étrange. Je mange avec lenteur, histoire de tuer le temps. Je réalise alors que, si je me penche suffisamment, je peux apercevoir le balcon de la chambre du 6e étage où j'ai passé de si longues heures solitaires. Je reste attablé un bon moment, regrettant de ne pas avoir apporté de livre. Être seul et désœuvré risque d'éveiller les soupçons. Après tout, ils doivent être rares, les touristes qui partent en vacances sans lecture, à moins d'avoir été obligés de partir précipitamment. Comme il me semble me souvenir d'être passé devant une librairie d'occasion, un jour que Jack m'entraînait prendre des photos de notre merveilleuse lune de miel à Bangkok, je sors de l'hôtel et pars à sa recherche. Je la déniche sans difficulté. C'est le genre d'endroit que j'aime. Mais j'ai l'impression de trop attirer l'attention pour m'y attarder. J'achète 2 ouvrages et retourne à l'hôtel. Assez surprise que ce lieu où j'ai vécu tant d'horreurs il n'y a pas si longtemps puisse me donner l'impression d'être relativement sûre. Dans ma chambre, je me mets en maillot de bain avant de descendre à la piscine, armée d'un livre et d'une serviette. Alors que je me hisse hors du bassin après m'être baignée, je remarque les regards de quelques hommes. Je m'apprête à leur dire, s'ils leur prenaient la fantaisie de m'aborder, que mon mari arrive dans 2 jours. J'étire péniblement le temps jusqu'à 15 heures, en alternant lecture et nage, puis je remonte dans ma chambre afin de laisser un 3e message lourd de déception à Jack. « Jack, c'est moi. J'espérais un appel de ta part. Tu dois encore dormir, ce qui est certainement une bonne chose, car tu t'es sûrement éreinté en bossant 24 heures d'affilée. J'ai passé la matinée à la piscine, je vais donc aller me promener maintenant. Je te rappelle à mon retour. Bisous. » Je patiente environ 1 heure dans ma chambre, puis gagne le hall. J'adresse un petit salut de la main à Monsieur O, qui semble travailler non-stop, et franchit les portes. Je marche un peu, atterris dans un marché où je fais l'emplette de foulards en soie pour Janice et Millie. J'achète aussi des cartes postales, trouve un bar, commande un cocktail sans alcool, lis mon livre, rédige mon courrier et me demande comment je vais occuper les 2 prochains jours. De retour à l'hôtel, je suis aussitôt coincée par Monsieur O, qui veut savoir si je m'amuse bien. Je lui confie être un brin perdu sans Jack et demande si, par hasard, il serait possible de réserver une excursion pour le lendemain. Il évoque une visite de 24 heures dans des temples. Certains clients se sont inscrits, est-ce que cela me dirait de me joindre à eux? C'est la solution idéale, mais il est important que je n'aie pas l'air trop avide d'y aller. J'hésite donc, tiens à savoir quand nous serons de retour précisément, souligne que j'attends Jack mercredi matin. Il assure que je serai rentrée à l'hôtel le mardi soir. Après avoir tergiversé encore un brin, je me laisse convaincre. J'en profite pour préciser que, puisque je vais être obligée de me lever tôt le lendemain, je préférerais dîner dans ma chambre. Il convient que c'est une excellente idée. Je regagne la suite, rappelle Jack. Allô, chérie? Toujours rien de toi. Es-tu allée déjeuner chez Esther? Elle m'avait parlé de t'inviter. Je lui ai expliqué que tu serais sans doute trop occupée, mais tu as peut-être éprouvé le besoin de t'octroyer une pause. Bref, je tenais seulement à t'informer que j'ai décidé de m'offrir une excursion. Nous partons demain tôt et resterons une nuit sur place. C'est Monsieur O qui me l'a proposé. Au moins, la visite des temples me distraira jusqu'à ton arrivée. Je déteste l'idée de ne pas pouvoir te reparler avant mardi soir, qui sera l'après-midi pour toi. Sois certain que je m'achèterai un téléphone portable quand j'entrerai en Angleterre. Mais bon, je te recontacterai dès mon retour à l'hôtel. J'espère t'attraper avant ton départ. Je pense que je vais venir te chercher à l'aéroport. Tu me l'as interdit, je sais, tu m'as assuré que tu te débrouillerais seul, mais après 4 jours de séparation, tu auras peut-être changé d'avis. J'ai hâte de te revoir. Autant que tu saches que je ne repartirai jamais sans toi, quelle que soit la somme de travail que tu as. Bon, il faut que je prépare quelques affaires. N'oublie pas que je t'aime. À mardi. Ne bosse pas trop dur. Le lendemain matin, je pars en excursion et m'attache à un charmant couple d'âge mûr qui, quand j'explique que je suis seule parce que j'attends mon mari, me prend sous son aile. J'évoque Jack et le merveilleux travail qu'il accomplit pour la cause des femmes battues. J'y mets une telle conviction que, pour un peu, j'y croirais presque moi-même. Ils finissent par faire le lien, et comme ils ont lu les journaux, je finis par admettre que Jack Angel est en effet mon époux. Par bonheur, ils sont assez discrets pour ne pas mentionner l'affaire Thomasin, bien qu'il soit clair que ça les démange. Du coup, je leur parle de Millie et de notre hâte qu'elle emménage chez nous, de ma reconnaissance éperdue envers un mari aussi tolérant. Je raconte la maison, la chambre jaune, la fête des 18 ans il y a 3 semaines. De retour à l'hôtel le mardi soir, plus tard que prévu, ils sont devenus de bons amis, et tandis que nous nous séparons pour regagner nos chambres respectives, j'accepte leur invitation à dîner dès que Jack sera là. Dans ma suite, je consulte ma montre. Il est presque 23 heures, soit 17 heures en Angleterre. Jack peut très bien être déjà parti pour l'aéroport. Je compose donc son numéro de portable, tombe sur sa boîte vocale. Cette fois, je prends soin d'adopter un ton consterné. « Jack, c'est moi. J'arrive juste de mon excursion au temple. Je ne comprends pas pourquoi tu ne décroches pas. Ne me dis pas que tu travailles encore, parce que tu devrais bientôt filer pour attraper ton avion, à moins que tu sois déjà en route. Voudrais-tu, s'il te plaît, me rappeler dès que tu auras eu ce message ? Juste pour confirmer que tout se déroule comme convenu et que tu t'envoles bien ce soir. Tu m'avais averti que tu serais injoignable, je sais, mais j'espérais quand même te parler au moins une fois avant ton départ, ou que tu me laisses un message à la réception. Sans vouloir te harceler, je commence à m'inquiéter de ton silence. Tu n'es pas en train de te défiler, hein ? Tu n'as pas reculé ton voyage d'un jour ? Quoi qu'il en soit, téléphone-moi le plus vite possible. Et ne te soucie pas de me réveiller, parce que je ne dormirai pas. » Je patiente 30 minutes, réessaie, et lâche « C'est encore moi. Je t'en prie, rappelle-moi. » Une demi-heure plus tard, je me contente de soupirer dans l'appareil. Puis je fouille mon sac en quête de la carte professionnelle de Jack et téléphone au cabinet. Une réceptionniste décroche. Sans me présenter, je demande à parler à Adam. « Allô, Adam ? C'est Grace. »«
Grace, comment va ? Alors, la Thaïlande ?»«
Ça va. Et la Thaïlande est toujours aussi extra. J'étais sûre que tu serais encore au bureau. Je ne te dérange pas, au moins. »«
Non, non. » J'étais en réunion avec un client, mais il vient de s'en aller. Dieu soit loué. C'est le genre d'affaire dont je n'ai pas spécialement envie de me charger, sauf que sa femme est bien décidée à le plumer, et je ne peux m'empêcher d'être désolée pour lui. Même si, naturellement, j'évite de laisser mes émotions prendre le dessus.
Il éclate d'un rire bref. Ce ne serait pas bon, en effet, je conviens. De toute façon, je ne vais pas te retenir. Je me demandais seulement si tu avais vu Jack ce week-end, ou si tu lui avais parlé. Je n'ai aucune nouvelle de lui et je commence à m'inquiéter. D'accord, il m'avait prévenu qu'il ne répondrait pas au téléphone à cause des journalistes, mais je pensais que pour moi, il décrocherait. L'a-t-il fait pour toi ? S'ensuit un petit silence.
Dois-je comprendre qu'il est toujours en Angleterre ?
Jusqu'à ce soir, il est censé décoller tout à l'heure. Enfin, j'espère. Il a évoqué l'idée de retarder son voyage, mais il n'était pas sérieux, me semble-t-il. Mon problème, c'est que je n'arrive pas à le contacter.
J'ignorais complètement qu'il était ici, Grace. Je le croyais en Thaïlande avec toi, qu'il s'était envolé vendredi soir.
Non, je suis partie en avance. À sa demande express, il voulait d'abord achever toute la paperasse pour ne pas avoir à s'en occuper à son retour.
Je comprends. Il n'y a rien de pire que revenir de congé et découvrir du boulot qui s'est accumulé. Surtout quand ça concerne un procès perdu. Il doit avoir le moral à zéro, j'imagine.
Oui, ce n'est pas faux. Je ne l'ai même jamais vu aussi mal. Et c'est pour cela que je voulais rester auprès de lui. Mais il a insisté pour être seul, sous prétexte que, avec moi dans les parages, il mettrait plus de temps à boucler les derniers détails de l'affaire Thomasin, et que, du coup, nous raterions nos vacances, tous les deux. D'où ma présence ici.
Entre toi et moi, je n'ai jamais compris qu'il ait accepté de défendre cet Anderson.
Il a peut-être laissé ses émotions prendre le dessus. Ce que je ne pige pas, Adam, c'est que tu ne saches pas qu'il avait décidé de me rejoindre seulement mardi. Tu lui as bien proposé de l'emmener à l'aéroport, non ?
Quand ?
Eh bien, vendredi, je suppose, quand il t'a annoncé qu'il partirait plus tard.
Excuse-moi, Grace, mais j'ai parlé à Jack vendredi matin pour la dernière fois, avant qu'il aille au tribunal. Je lui ai ensuite laissé un message sur son répondeur pour le réconforter, quand j'ai appris qu'il avait perdu. Et tu dis ne pas l'avoir eu depuis ?
Exact. Je ne me suis pas trop inquiétée au début, puisqu'il m'avait précisé qu'il ne comptait pas décrocher le téléphone. En plus, j'étais en excursion ces deux derniers jours. Mais je m'attendais à ce qu'il laisse un message à l'hôtel pour confirmer sa venue. Il est possible qu'il soit sur la route de l'aéroport, tu connais les embouteillages aux heures de pointe. Je n'arrête pas de tomber sur sa boîte vocale. Il ne répond jamais quand il conduit, mais c'est très agaçant.
Si ça se trouve, il a oublié de rallumer son portable après l'avoir éteint vendredi.
Peut-être. Écoute, Adam, je ne vais pas te retenir plus longtemps. Je suis sûre que ce n'est rien.
Veux-tu que je passe quelques coups de fil pour voir si quelqu'un l'a eu ce week-end ? Est-ce que ça te tranquilliserait ?
Oui,
Je m'écris soulagée.
Oui, vraiment. Et c'est Esther, quand elle m'a amenée à l'avion, elle m'a dit vouloir inviter Jack samedi ou dimanche.
Pas de souci.
Merci, Adam. Au fait, comment vont Diane et les enfants?
Très bien. Laisse-moi contacter les uns et les autres, je te rappelle. Tu me donnes ton numéro?
Je lui dicte celui inscrit sur le bloc-notes de l'hôtel, puis m'assois sur le lit pour attendre. Je tente de lire un peu, mais je n'arrive pas à me concentrer. Une trentaine de minutes s'écoulent avant qu'Adam me rappelle et m'annonce que personne n'a parlé avec Jack pendant le week-end, même si plusieurs collègues l'ont croisé au cabinet avant qu'il se rende au tribunal.
J'ai essayé de le joindre, mais je suis moi aussi tombée sur son répondeur. Esther également, quand elle a voulu l'inviter. Encore une fois, ça ne veut rien dire. Il peut avoir négligé de rallumer son portable.
Je ne pense pas, non. D'autant qu'il savait que j'aurais envie d'entendre sa voix. Et puis, j'ai réfléchi. Il y a un autre truc qui me turlupine. Pourquoi m'a-t-il raconté que tu lui avais offert de le conduire à l'aéroport si ce n'est pas le cas?
Il avait peut-être l'intention de me demander et se sera ravisé. Écoute, ne te bile pas. Je suis certain que tout va bien et qu'il sera dans l'avion ce soir.
Tu crois que, si j'appelle British Airways d'ici une heure ou deux, ils accepteront de me dire s'il est ou non sur la liste des passagers?
Ils refuseront, à moins qu'il s'agisse d'une urgence, pour des raisons de confidentialité.
Alors, je soupire. Je vais devoir attendre demain matin.
Quand tu le verras, ne manque pas de l'engueuler pour tout le souci qu'il t'a donné, et qu'il m'envoie un texto pour me dire qu'il est bien arrivé.
D'accord. Quel est ton numéro de portable? Il me le donne. Je le remercie. De nouveau, le sommeil me fuit. Tôt le lendemain, élégamment habillée et soigneusement maquillée, je descends au rez-de-chaussée. Monsieur O est comme toujours derrière la réception. Devinant que je suis venue attendre Jack, il m'annonce que ça risque d'être long entre la queue au contrôle des passeports et le trajet en taxi. Il me suggère donc de prendre mon petit déjeuner, ce que je décline, assurant que je préfère patienter, car Jack sera sûrement affamé à son arrivée. Je m'installe dans un fauteuil non loin de la porte. Au fur et à mesure que les minutes s'écoulent, je regarde nerveusement ma montre. Quand il est évident que quelque chose cloche, je vais trouver Monsieur O et le prie de vérifier si le vol de Londres a atterri à l'heure. Il consulte son ordinateur, m'apprend que l'avion a été effectivement retardé, mais qu'il devrait se poser d'ici peu. Je n'en reviens pas de ma chance. Je n'aurai plus à feindre l'affolement pendant les deux prochaines heures. Monsieur O sourit en voyant le soulagement envahir mon visage, et je lui confie que je commençais à m'inquiéter de l'absence de Jack. Je retourne à mon poste d'attente, et le directeur m'apporte une théière pour m'aider à patienter. Quand presque 2 heures plus tard, Jack n'est toujours pas là, il est temps que je manifeste mon embarras. Je demande à utiliser le téléphone de la réception. Tout en composant le numéro de Jack, j'explique à Monsieur O que je ne peux m'empêcher d'être soucieuse, même si mon mari m'a averti qu'il était susceptible de prendre l'avion du mercredi soir, parce qu'il devrait m'avoir appelé maintenant. Je tombe sur sa boîte vocale. « Où es-tu, Jack ?»
Je lance sur un ton où tremblent des larmes de frustration et de déception.
« L'avion a eu du retard, mais ça n'explique pas que tu ne sois pas encore ici. J'espère que ça ne veut pas dire que tu n'arrives que demain. » Ou alors tu aurais quand même pu me prévenir. Est-ce que tu te rends compte à quel point je suis inquiète? 4 jours sans nouvelles. Même si tu ne voulais pas décrocher, tu aurais pu me contacter. Tu as forcément eu mes messages. Je t'en prie, appelle. Il est horrible d'être coincé ici sans savoir ce qui se passe, Jack. Même si on s'occupe très bien de moi, j'ajoute vu que Monsieur O n'en perd pas une miette. Mais je voudrais que tu sois ici. Alors par pitié, téléphone pour me rassurer. Je suis dans le hall de l'hôtel, là, tout de suite. Je vais remonter dans ma chambre. Tu peux me transmettre un message par Monsieur O. Je t'aime. Je raccroche. Le directeur me regarde avec compassion. De nouveau, il m'invite à me restaurer. Je réponds que je n'ai pas faim. Il promet de venir me chercher si Jack téléphone, si bien que je le laisse me persuader d'aller prendre un petit déjeuner. Alors que je me dirige vers la terrasse, je croise Margaret et Richard, le couple que j'ai rencontré lors de mon excursion. Les yeux pleins de larmes, je leur annonce la défection de Jack. Il me console en me remémorant qu'il avait dit risquer d'avoir un jour de retard, insiste pour que je passe la journée en leur compagnie. Ce à quoi j'objecte que je préfère rester dans ma chambre durant les prochaines heures, au cas où mon mari se manifesterait, soit par téléphone, soit physiquement. Dans le cas contraire, je propose toutefois de les retrouver dans l'après-midi. Je réintègre la suite, téléphone à Adam.
Il ne décroche pas, ce qui m'arrange, car j'aime mieux lui annoncer par boîte vocale interposée que Jack n'a pas pris l'avion. Plus tard, je rejoins Margaret et Richard. La tension qui m'habite se lit sur mes traits, et je précise que j'ai essayé de contacter mon mari à plusieurs reprises sur son portable, sans succès. Comme ils sont la gentillesse incarnée, je suis heureuse de les avoir pour me distraire de mes pensées. Je ponctue les heures avec eux par des coups de fil répétés et vains à Jack, lui demandant de me rappeler. Le soir, mes nouveaux amis refusant que je broie du noir seul dans mon coin, nous dînons ensemble. Ils m'assurent avec bonne humeur avoir hâte de faire la connaissance de mon époux le lendemain. Je finis par regagner ma chambre vers minuit. J'y trouve un message d'Adam s'excusant d'avoir loupé mon appel et voulant savoir si je souhaiterais qu'il fasse un saut à la maison afin de vérifier si Jack y est. Je le joins aussitôt pour accepter sa proposition, puis nous nous rendons compte que, si Jack prend l'avion ce soir, il sera déjà parti pour l'aéroport à 7 heures. Je lui dis donc de ne pas s'embêter avec ça et promets de lui téléphoner à l'instant où Jack sera là. Nous plaisantons une nouvelle fois sur l'engueulade à laquelle il aura droit pour nous avoir ainsi tous angoissés. Le lendemain, Margaret et Richard me tiennent compagnie pendant que j'attends. Ils sont par conséquent témoins de ma détresse lorsque Jack manque de nouveau à l'appel. Sur les conseils de Margaret, j'essaie de savoir auprès de British Airways s'il était à bord de l'appareil. Comme il se révèle incapable de me renseigner, je me mets en rapport avec l'ambassade de Grande-Bretagne. Quand j'ai expliqué la situation, et peut-être parce que Jack est connu, ils promettent de voir ce qu'ils peuvent faire. Peu après, ils rappellent pour annoncer que Jack ne figure pas sur la liste des passagers. J'éclate en sanglots. Je parviens à être suffisamment cohérente pour leur signaler qu'ils ne semblent pas être chez nous non plus. Ils compatissent, mais me signifient qu'ils n'ont pas vraiment d'éléments pour faire quoi que ce soit à ce stade, et me suggèrent de contacter nos amis et connaissances en Angleterre pour qu'ils enquêtent de leur côté. Je les remercie et raccroche. Flanqué de Margaret, je rappelle Adam pour l'informer, d'une voix frémissante d'anxiété, de ce qui se passe. Il offre tout de suite de filer à la maison. Quand il téléphone une demi-heure plus tard, c'est pour m'annoncer qu'il est devant les grilles, mais que tout est fermé, et que personne n'a réagi à ses coups de sonnette. J'émets alors l'idée que Jack ait pu avoir un accident de la route, et il répond qu'il va se renseigner. Je lui transmets aussi le conseil de l'ambassade, et il s'engage à joindre les uns et les autres pour moi. Pendant que j'attends qu'il revienne vers moi, Diane se manifeste pour me rassurer et confirme qu'Adam se démène comme un beau diable pour retrouver la trace de Jack. Nous discutons un moment. La conversation terminée, Margaret entreprend de me questionner avec tact, et je me rends soudain compte qu'elle et Richard soupçonnent une liaison, quelqu'un avec qui Jack aurait filé. Horrifiée, je me récris, dans la mesure où rien dans son comportement jusqu'à présent ne pourrait corroborer pareille hypothèse, avant d'avouer que... oui, il va falloir que j'envisage cette possibilité. Le téléphone sonne. Grace ? Adam ? Je dis d'un ton hésitant, comme si je redoutais ce qu'il va m'annoncer. Tu as réussi à trouver quelque chose ?
Juste que Jack n'a pas été admis aux urgences, ce qui est une bonne nouvelle.
Oui, je confirme, en poussant un soupir de soulagement.
J'ai appelé un maximum de gens. Aucun n'a l'air d'avoir parlé à Jack, du moins pas ces derniers jours. Désolé, mais nous voici revenus à la case départ, j'en ai peur.
Je me tourne vers Margaret, qui m'adresse un hochement de tête encourageant. Il faut que je te demande un truc, Adam.
Oui.
Je lance l'idée d'une voix précipitée. Serait-il concevable que Jack ait une aventure? Avec une fille du cabinet, peut-être?
Une aventure?
S'exclame Adam. Visiblement choqué.
Non, bien sûr que non. Il regardait à peine les autres femmes avant de te rencontrer. Alors maintenant...
Enfin, Grace, tu ne peux pas croire ça.
Ma voisine, qui a compris le propos, me serre la main avec bonté. Tu as raison, j'admets contrite. C'est juste que je ne vois aucune autre raison à sa disparition brutale.
Est-ce que tu penses à des amis que je ne connaîtrais pas?
Pas vraiment, non. Attends... Et Moira et Gilles, tu sais le couple qui était à l'anniversaire de Millie? Tu devrais peut-être essayer. Malheureusement, je n'ai pas leur numéro.
T'inquiète, c'est quoi leur nom de famille?
Kilbourne Hawes, me semble-t-il.
Je leur passe un coup de fil et je te rappelle.
Il le fait 30 minutes plus tard,
pour m'annoncer que, à eux non plus, Jack n'a pas donné signe de vie. Je suis complètement bouleversée. Personne ne sait plus que faire. Le consensus général, Margaret et Richard, Adam et Diane, est qu'il est trop tôt pour alerter les autorités afin qu'elles lancent une enquête pour disparition. Tous s'accordent à dire que, pour l'instant, le mieux est que je dorme et vois si Jack ne ressurgit pas le lendemain matin. Mais une nouvelle matinée passe, et il n'est toujours pas là. La journée est un tourbillon flou pour moi, cependant que M. O, Margaret, Richard et Adam prennent le relais. J'exige de rentrer à la maison, ils me convainquent de patienter un jour de plus. J'accepte. En début d'après-midi, soit 8 heures du matin en Angleterre, Adam rappelle pour m'annoncer qu'il s'est entretenu avec la police locale, qui, avec ma permission, accepte de forcer notre porte afin de chercher des indices permettant de localiser Jack. Ensuite, les policiers prennent contact avec moi et me demandent de leur raconter quand j'ai vu Jack pour la dernière fois. J'explique que c'est quand Esther est venue me chercher pour me conduire à l'aéroport, qu'il m'a fait au revoir de la main depuis la fenêtre de son bureau. Il ne pouvait m'emmener lui-même car il avait bu un grand whisky en rentrant du travail. Je précise que j'aurais préféré ne pas partir seule, même si Jack m'avait prévenu qu'il le faudrait peut-être, si jamais l'affaire Thomasin prenait du retard. Ils promettent de me rappeler très vite, et je reste dans ma chambre, en compagnie de Margaret qui me tient la main. Sachant que l'attente risque d'être longue, je lui dis que je vais essayer de dormir et je m'allonge sur le lit. Je parviens à m'octroyer quelques heures de repos, jusqu'à ce que le moment que j'attendais depuis mon arrivée en Thaïlande se produise enfin. Ça commence par un coup à la porte. Comme je ne bouge pas, c'est Margaret qui va ouvrir. J'entends une voix masculine, puis ma nouvelle amie revient vers le lit, me secoue légèrement par l'épaule et m'annonce qu'on souhaite me parler. Je m'assois et elle sort discrètement de la chambre. J'ai envie de la retenir, mais l'homme s'approche déjà. Mon cœur bat si vite. Mon souffle est si heurté que je n'ose pas le regarder avant de m'être ressaisi. Les yeux rivés sur le sol, ce sont ses souliers que je vois d'abord. En cuir de bonne qualité et bien ciré, comme je m'y attendais. Lorsqu'il se présente, je relève la tête. Son costume est sombre, comme l'imposent les circonstances, mais en tissu léger à cause du climat. Je le dévisage. Ses traits ne sont pas antipathiques, juste graves, comme il se doit. Madame Angel. Oui, je réponds avec des intonations anxieuses. Je m'appelle Alastair Strachan, de l'ambassade de Grande-Bretagne. Il se tourne, et je découvre qu'une jeune femme l'accompagne. Voici Vivienne Dashmore, pourrions-nous vous parler? Je saute sur mes pieds.
C'est Jack? Vous l'avez trouvé?
Oui. Enfin, la police anglaise, plutôt.
Dieu soit loué. Où est-il? Pourquoi ne répond-il pas au téléphone? Il est en route pour Bangkok?
Et si nous nous asseyons? Suggère la jeune femme.
Bien sûr, oui.
Je les entraîne au salon où je m'installe sur le canapé, tandis qu'ils prennent les fauteuils.
Alors, où est-il? Dans l'avion?
Strachan se gratte la gorge. Je suis vraiment navré, mais j'ai peur que Monsieur Angel ne soit décédé, Madame Angel. J'écarquille des yeux choqués. Mes traits affichent l'égarement.
Je ne comprends pas,
je balbutie. Il se trémousse, mal à l'aise. Je regrette. Mais votre mari a été retrouvé mort.
Je secoue la tête avec énergie, ma voix tremble sous l'effet de l'émotion. Non, ce n'est pas possible. Il doit me rejoindre ici, il l'a dit. Où est-il? Je veux savoir où il est. Pourquoi n'est-il pas ici?
Je sais combien ce doit être difficile pour vous, Madame Angel, intervient la femme. Mais nous devons vous poser quelques questions. Souhaitez-vous faire venir quelqu'un? Votre ami, peut-être?
Oui, oui. Pouvez-vous aller chercher Margaret?
Strachan se lève et se dirige vers la porte. Des murmures sont échangés, puis Margaret apparaît. Son bouleversement est visible. Je me mets à frissonner de manière incontrôlable.
Ils disent que Jack est mort, mais il ne l'est pas. Il ne peut pas l'être.
Ça va aller, souffle-t-elle, en s'asseyant près de moi et en glissant un bras autour de mes épaules. Ça va aller.
Commandons du thé, propose la jeune femme.
Se levant à son tour, elle se rend au téléphone et contacte la réception.
A-t-il eu un accident de voiture? Je demande à Margaret d'un air perplexe.
« C'est ça ? Jack a eu un accident en se rendant à l'aéroport. C'est pour ça qu'il n'est pas ici. »«
Je l'ignore, » chuchote-t-elle.
« C'est forcément ça, » je décrète avec conviction. « Il devait se dépêcher, il a quitté la maison en retard, il a roulé trop vite et voilà. C'est bien ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?»«
Je n'en sais rien, »
répond-elle avec un coup d'œil à Strachan.
« J'ai froid, » je murmure en me mettant à claquer des dents. Elle s'empresse de bouger, heureuse d'avoir quelque chose à faire. « Vous voulez un pull ? Vous en avez un dans l'armoire ?»«
Oui, mais pas un pull, un gilet plutôt. Non, le peignoir. Vous pouvez m'apporter le peignoir ?»«
Naturellement. » Elle file dans la salle de bain, en revient avec le peignoir et le pose sur mes épaules.
« Merci. »
« C'est mieux comme ça ?»«
Oui. Mais Jack n'est pas mort. Ce doit être une erreur. Obligée. »
Elle est sauvée par un coup frappé à la porte. La jeune diplomate va ouvrir, et Monsieur O entre, suivi par une fille qui pousse un chariot chargé d'un service à thé.
« Si je puis vous être utile, n'hésitez pas, » chuchote le directeur.
Je sens qu'il me regarde avant de s'en aller, mais je garde la tête baissée. La jeune femme se charge de verser le thé. Elle me demande si je veux du sucre.
« Non, merci. »
Elle place une tasse devant moi. Je m'en empare, mais mes doigts tremblent tant que je m'éclabousse la main et me brûle. Je repose vivement la tasse sur sa soucoupe.
« Désolée, »
je souffle, tandis que mes larmes montent.
« Désolée. »
« Ce n'est rien, » se dépêche de me rassurer Margaret en essuyant ma main avec une serviette en papier. Je me reprends avec beaucoup de difficulté.
« Excusez-moi, je n'ai pas retenu votre nom, »
je dis à l'homme. Alastair Strachan.
Monsieur Strachan, vous prétendez que mon mari est mort ?
Je le fixe. J'attends qu'il confirme.
Je le crains. Hélas.
Comment cela s'est-il passé ? Est-ce que ça a été rapide ? Quelqu'un d'autre a-t-il été blessé dans l'accident ? Quand est-ce qu'il a eu lieu ? Il faut que je sache. Il faut que je sache comment ça s'est produit.
Ce n'était pas un accident de voiture, Madame Angel.
Pardon ?
Je tressaille.
Mais comment alors ?
Ce n'est pas facile à annoncer, Madame Angel, répond-il en se tortillant. Il semble que votre mari se soit suicidé.
Sur ce, j'éclate en sanglots.